France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Alors qu'un zoo israélien annonce que le macaque de l'établissement vit une folle passion avec un poulet et que deux américaines se sont plaintes d'un déficit visuel depuis qu'elles ont regardé l'éclipse solaire en se mettant de la crème solaire dans les yeux, et oui c'est vrai, on se dit qu'on est quand même bien. Avec notre loi travail, finalement, c'est tout à fait tranquille ce qu'on est en train de vivre en France. Et eux, ils sont venus faire un point d'étape avant de plonger vers un week-end délicat. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Soazic Kemener, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
De Marianne, également Antoine Bonneau, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Vous êtes auteur, notamment de votre état. Également le président des jeunes socialistes, Benjamin Lucas, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Et Éric Scholl, bonsoir, directeur de Courrier International.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Et ce soir, on parlera un peu d'Europe, on parlera de Wauquiez, Laurent Wauquiez, de l'éducation nationale, puisque lundi, et oui, c'est la rentrée. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Alors nous sommes 24 heures après l'annonce des ordonnances concernant la réforme du Code du travail et bon bah voilà en fait hein, je sais pas on doit vous dire que en fait hors de tout propos de fond on s'attendait à quelque chose d'énorme après et puis bon bah là ça reste en suspens, on sait plus quoi faire. On nous avait tellement parlé de ces ordonnances, le matin même le président de la République parlait de révolution copernicienne, de chambardement complet, que ça nous a fait le même effet que l'an 2000, vous savez, quand on nous promettait des voitures volantes et puis bah plus rien. En fait, tout le monde affûte ses armes, les syndicats analysent la loi, les Insoumis se préparent pour les défilés et le MEDEF se demande bien ce qu'il va pouvoir demander maintenant puisqu'il a obtenu de belles choses. Outre les annonces, ce qui a frappé hier, c'est cette désunion syndicale. Et ce matin, le secrétaire national de Force Ouvrière semble encore un peu groggy, Jean-Claude Mailly.
Non, non, je défends pas la réforme, j'essaie d'être objectif.
Voilà devenu le syndicat le plus réformateur de ce pays.
Non, il réformise depuis tout le temps, mais ça dépend des conditions.
Qu'est-ce qui a fait que vous soyez devenu si constructif, quand même? Vous étiez si opposé à la loi El Khomri, qu'est-ce qui a fait,
Parce que le contexte, quand je dis le contexte, la manière de faire était différente. L'année dernière, quand je faisais des propositions, des contre-propositions, j'ai l'impression que, pouf, ça passe à la poubelle tout de suite. Jamais eu de discussion loyale l'année dernière. Là, on a eu une vraie discussion. Après, chacun prend ses responsabilités.
Voilà, Jean-Claude Mailly aux côtés de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur BFM. Alors, Benjamin Lucas, quand vous voyez en effet Force Ouvrière, vous êtes jeune socialiste, mais vous étiez contre la loi El Khomri, vous avez beaucoup manifesté, beaucoup écrit et travaillé dessus, mais Force Ouvrière était à vos côtés à l'époque dans la rue. Quand vous voyez Force Ouvrière en ce moment qui dit « on a fait notre travail syndical, finalement pourquoi ne pas accepter ?»
Non, moi je respecte l'autonomie des syndicats, je suis un militant politique donc je vais pas interférer dans un champ qui est pas le mien. Simplement je constate quand même que Jupiter a quelque chose de nouveau à son actif, c'est maintenant il change de calendrier, c'était le Noël de Pierre Gattaz hier. Donc on a eu effectivement tout ce qu'il y avait, et moi je pense que c'est pour ça, Force Ouvrière ou pas d'ailleurs, qu'il faudra que nous soyons le plus nombreux possible dans la rue le 12 septembre pour nous opposer. Oui, mais il y aura quand même des dizaines, des centaines, j'espère des millions de citoyennes et citoyens qui refuseront ce qui est une casse sans précédent du Code du travail. Déjà moi j'ai protester contre la loi El Khomri parce qu'elle remettait en cause plus d'un siècle d'acquis sociaux, de conquêtes sociales qui ne sont pas venus comme ça, qui sont venus de lutte, qui sont venus de sacrifices de beaucoup de salariés et de beaucoup de citoyens engagés pendant des années. Et on ne peut pas aujourd'hui partir à nouveau du principe que finalement la protection des salariés est un frein à l'emploi et de ne promettre à la jeunesse, je parlais de ma génération, qu'un avenir de précarité, d'incertitude et d'angoisse. Enfin, comment se projeter dans l'avenir quand demain on aura un travail encore plus précaire, encore plus soumis facilement au licenciement, etc. On est toujours dans les vieilles lunes libéral, on nous promettait avec Macron ça allait être la modernité, ça allait être nouveau, bah finalement on fait la même chose que ce qu'on fait depuis 30 ans mais en pire.
Antoine Bonneau.
Notre camarade a au moins le mérite de la cohérence, parce que c'est vrai que quand on s'est opposé aux lois El Khomri, a priori on devrait aussi s'opposer aux ordonnances. À partir du moment où on observe, quel que soit l'acteur, que ce soit un syndicat, que ce soit un parti, un hiatus entre les deux, c'est qu'il s'est passé quelque chose et qu'on entre dans le champ du politique et plus du juridique.
Alors justement, sur Kemener, est-ce qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron a gagné cette première manche ou pas?
Mais ça dépend, la manche de quoi?
La manche de présenter, on a l'impression que déjà diviser les syndicats.
Alors ça il a réussi, mais on aurait pu écrire en tout cas le début de cette histoire-là dès le mois de mai, c'est-à-dire qu'on savait qu'il allait lancer un exercice de concertation, on savait que ça allait être compliqué parce que les syndicats étaient affaiblis, ils jouent là-dessus, on savait que l'exercice politique de faire patienter jusqu'à la fin du mois d'août pour connaître le contenu exact des ordonnances allait empêcher les syndicats de s'exprimer. Alors, Philippe Martinez l'a fait assez vite, mais les autres attendaient. Donc il a réussi à faire descendre la pression par la méthode. Ça, c'est la première chose. Mais après, c'est difficile pour moi de parler de première manche parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent s'agréger à ça. C'est-à-dire que on voit bien le code du travail, ça n'a pas été le sujet principal cet été. Ça aurait dû l'être, ça n'a pas été à cause des zigzags budgétaires, à cause des coups de rabot, à cause de la crise avec l'armée. Et là encore, c'est pas le sujet. C'est un des sujets très très importants de la rentrée, mais il y a d'autres étincelles qui peuvent devenir des flammes. On va voir ce que ça donne, mais il y a la question des contrats aidés, il y a la question de la réforme de l'ISF. Donc on va être dans un package global, et c'est là où il faudra voir la réaction. Alors, on voit déjà la réaction des Français au code du travail, aux ordonnances telles qu'elles ont été proposées. Un divers sondage montre justement qu'ils sont majoritairement opposés à cette réforme du code du travail. Je dis pas que ça fait de la protestation dans la rue, on va voir.
Vous faites une très bonne transition, c'est qui m'énerve, parce que j'allais vous poser cette question. Éric Scholl, il y a un très bon sondage France Info, forcément, au Doxa, alors qu'il dit que 52% des Français, par contre, eux, ils se montrent favorables aux mesures annoncées, sauf concernant le plafonnement des indemnités prud'homales. Il y a un autre sondage qui montre que les Français interrogés sont contre les ordonnances. On voit quand même un certain flou, Éric Scholl, on ne sait pas trop où se situer.
Parce que pour l'instant, c'est encore beaucoup trop tôt. On voit, il y a deux sondages qui sont contradictoires, qui montrent d'ailleurs certainement en fait les contradictions des citoyens français, qui ont à la fois évidemment l'idée de défendre ce code du travail, mais qui ont certainement aussi envie de réformer le marché du travail. Et contrairement, enfin, à un moment, il y a cette logique qui fait que ce constat du marché du travail actuellement, où on est à pratiquement 10% de chômage, c'est les propos que j'ai déjà tenus ici à cette antenne. On ne fait rien, très bien, on reste exactement comme mon voisin vient de le dire, c'est-à-dire qu'on ne fait absolument rien, et on reprend les mêmes enseignes qu'on a déjà faites il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, en criant au loup, au libéral, etc. Très bien, ça ne bougera pas, on restera avec nos 10% de chômage. Soit on dit, on essaye de faire quelque chose, et autant j'ai pu critiquer tout ce qui s'est passé cet été, les dérapages auxquels le Soisic faisait allusion il y a quelques instants, mais sur le fond, cette réforme avait été annoncée. Je trouve qu'elle se présente, qu'elle a été négociée d'une façon très différente avec ce qui a été fait l'année dernière avec la loi El Khomri. Maintenant, voilà, on va voir effectivement comment ça peut réagir dans la rue. Mais pour l'instant, je crois effectivement qu'elle a gagné la première.
Alors, Benjamin Luquet, je vous donnerai la parole dans un instant. Je suis désolé. Voilà, vous savez, c'est comme ça, France Info. Direct. Voilà, on n'arrête plus. C'est direct, c'est passionnant, c'est l'information. On en fait beaucoup. L'info à 20h10, Stéphane Milhomme.
Et moins d'une semaine après la disparition de Maëlys, demain, des habitants du secteur de Pont de Beauvoisin feront une battue citoyenne, un appel relayé sur Facebook pour retrouver la fillette de 9 ans disparue lors d'une soirée de mariage en Isère. Deux hommes restent gardés à vue et interrogés, une enquête pour enlèvement. L'UEFA ouvre une enquête sur le PSG dans le cadre du fair play financier. Le but est de vérifier la conformité du club de foot avec l'exigence de l'équilibre financier, en particulier après ses transferts de l'été, transferts de Neymar et Mbappé, 222 plus 180 millions d'euros. Le PSG vient de se déclarer surpris mais très confiant. La réforme du travail, le Parti Socialiste ne manifestera ni le 12 ni le 23 septembre. Pour Olivier Faure, le président du groupe PS à l'Assemblée, ce sont des organisations syndicales et un mouvement politique qui sont à l'initiative. Sur le fond, le PS refuse cette loi travail car, dit-il, c'est un recul du dialogue social qui crée de l'insécurité sociale. Les silhouettes féminines ne vont pouvoir rester à Danemarie. Le Conseil d'État annule l'ordonnance du tribunal administratif prescrivant ce retrait. 65 mannequins installés un peu partout dans cette commune du Haut-Rhin pour célébrer l'année de la femme. Et puis Alain Delon, une rose blanche à la boutonnière pour un dernier hommage à Mireille d'Arc, mais aussi Johnny Hallyday, Carla Bruni, Claudia Cardinal, également 2000 anonymes rendus hommage ce matin à Paris à l'actrice disparue en début de semaine.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de la loi travail. Et oui, encore, hein, puisque voilà, ça fait 24 heures qu'on connaît les ordonnances. Alors, Benjamin Luquet, président des Jeunes Socialistes, vous l'avez entendu. Donc, le Parti Socialiste n'appelle pas à manifester le 12 et 23. C'est un peu compliqué parce que c'est vrai qu'avec le Parti Socialiste, vous, en effet, vous n'avez pas de problème. Comme on l'a dit, vous étiez contre la loi El Khomri, mais Mariam El Khomri, elle vient du Parti Socialiste aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une petite gêne aux entournures autour de ce projet de loi?
Je ne vais pas vous dire le contraire. Et comme l'a déjà dit mon ami Martine Aubry, quand c'est flou, il y a un loup. Alors moi, je vais essayer d'être sincère et de parler de la position qui est celle des jeunes socialistes. Je vais juste répondre sur deux choses qui étaient évoquées tout à l'heure.
Allez-y.
Sur une chose d'ailleurs. Ouais. Sur le débat, ça peut pas être à chaque fois qu'on fait une réforme libérale du Code du travail, c'est ça ou rien. C'est ça ou l'immobilisme est enfermé celles et ceux qui sont attachés à la justice sociale, à l'égalité dans le camp des immobilistes. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je parlais de Martine Aubry. La dernière fois qu'on a créé massivement de l'emploi dans ce pays, parce que c'est ça l'objet quand même d'une réforme du droit du travail, c'est comme ça qu'on la présente, c'est créer de l'emploi. La dernière fois qu'on a créé massivement de l'emploi dans ce pays, c'est quand on a partagé le temps de travail. Et moi, je crois à la réduction du temps de travail, au partage du temps de travail pour créer des emplois. Par ailleurs,
je veux dire, au moment, il y avait une grosse croissance économique.
Par ailleurs,
vous dites 32 heures, vous parlez.
Ce qui aujourd'hui est demandé, puisqu'on parle des entreprises, ce qui est demandé par les entreprises aujourd'hui, ce n'est pas de pouvoir licencier plus facilement, ce n'est pas d'avoir des contrats plus précaires. Je ne crois pas qu'un chef d'entreprise de bonne foi ait envie d'avoir des salariés qui sont moins bien traités qu'ils ne l'étaient avant. C'est d'avoir des carnets de commandes qui se remplissent. Et donc là aussi, il y a le rôle de l'investissement, il y a le rôle de la puissance publique, il y a le rôle, par exemple, de la transition énergétique dans laquelle on pourrait investir, qui créerait des centaines de milliers et des millions d'emplois. Donc voilà, donc on peut faire des choses pour créer de l'emploi qui ne soient pas forcément des régressions ou un avenir promis à la jeunesse qui soit un avenir de précarité et de pauvreté.
Antoine Boileau.
Juste un point, on parle de ces ordonnances travail, mais il faut peut-être rappeler d'un mot en survolant leur esprit. Ce qu'il y a dedans, parce qu'on ne sait pas forcément...
Donc
il faut dire qu'elles ne font pas rien. C'est vrai qu'il y a des choses dedans. C'est vrai qu'elles libéralisent assez substantiellement. En revanche, ça n'est pas un véritable Big Bang, c'est-à-dire qu'on ne brûle pas le code du travail.
Révolution copernicienne, pour vous, c'est pas le cas.
C'est pas le cas parce qu'il y avait un point qui était fondamental, c'était l'inversion de la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que, par exemple, que l'accord d'entreprise passe devant l'accord de branche. S'ils avaient fait ça, alors là, oui, c'était une mise à plat.
Mais ça, c'est toujours les ballons d'essai. On vous dit, on va tout casser. À la fin, on casse presque tout, mais pas tout. Et du coup, on dit, regardez, c'est mieux que c'était pire.
Il faut regarder objectivement les choses.
C'est quand même une bonne tactique de communication.
Mais ce qui est vrai, Benjamin Lucas, c'est vrai que pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait parlé, lui, de l'entreprise plutôt que la branche. Juste une chose, Eric Scholl, Emmanuel Macron prend souvent en exemple ce modèle social allemand. Est-ce que c'est ça finalement, là, ce qui est en train de se dessiner? Ça veut dire, aujourd'hui, on voit l'Allemagne qui se porte mieux, en effet, mais peut-être avec plus de précaires?
C'est assez compliqué. La comparaison est plus difficile quand, par exemple, les réformes ont été faites au début des années 2000 en Allemagne. C'est l'ensemble. Il y a eu une sorte de package qui a concerné l'ensemble. Là, on est juste sur une partie importante, mais on est juste sur les marchés du travail. On n'est pas encore sur la formation professionnelle. On n'est pas encore sur le chômage. En Allemagne, il y a eu une sorte de package qui a consisté à tout changer en même temps. Et il y a eu des donnants-donnants sur l'ensemble des choses. Là, c'est peut-être trop compliqué à faire. Là, on a considéré qu'il faut le faire par étapes. Voilà. Donc, on verra sans doute à la fin si, effectivement, on arrive au même... je crois pas que ce soit un Big Bang, mais en tout cas, la même... et puis, si vous voulez, sur le fond, quand même, en Allemagne, il y a quand même cette culture de la discussion, de la négociation, même du consensus avec les syndicats, qu'on n'a jamais eu en France. Mmh. Et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de vous dire qu'aujourd'hui, on va arriver au modèle social allemand.
À suivre, d'ailleurs, le calendrier, ça sera ensuite la réforme assurance chômage, l'apprentissage et formation professionnelle. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure sur les quémenaires, donc ça va être quand même très, très chargé avant Noël, en fait, là, pour le gouvernement. Est-ce que politiquement, aujourd'hui, ça a des conséquences sur Emmanuel Macron ou alors la politique est un tel champ de ruines aujourd'hui autour de lui qu'il peut finalement presque faire ce qu'il veut?
De toute façon, vous savez ce que disait François Mitterrand, il disait que les chefs d'État français ont beaucoup plus de pouvoir que dans toutes les autres démocraties occidentales, mais beaucoup moins qu'on ne le pense finalement. Ça, c'était ce qu'il avait dit à la fin de son second mandat. Ce qui est sûr, c'est que il a les mains libres. En même temps, il y a les sénatoriales, mais il n'y a pas d'élection immédiatement. Les prochaines, ce sera en 2019. Donc, il a un peu de temps devant lui. En même temps, il est très très attendu. On voit qu'il a une chute spectaculaire de popularité cet été. C'est important. Pourtant, pour lui, la popularité, c'est pas totalement annexe parce qu'il est vraiment seul, parce qu'il essaie de bâtir quelque chose d'un peu nouveau. En tout cas, c'est ce qu'il espérait faire. Et puis finalement, on découvre que tout ça est quand même encore très balbutiant, comme moi à l'instant. Mais c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un Premier ministre qui finalement n'a pas de troupes derrière lui, qui est tout le temps en train d'essayer de se bâtir une légitimité. On voit que c'est compliqué aussi au groupe parce qu'on a Richard Ferrand à sa tête qui est contesté par certains et qui en même temps est englué dans une affaire dont on parle pas encore pour l'instant, mais ça va revenir, je n'en doute pas. On a aussi la question d'un gouvernement où finalement on a assez peu de têtes d'affiche, donc il est assez peu aidé, assez peu soutenu. Donc je pense que son travail principal pour faire entendre sa politique, c'est aussi de se trouver des relais, mais des relais chez les siens. Ça va être ça un des principaux ouvrages aussi politiques de la rentrée.
Antoine Bonneau.
Pour répondre à la question, Macron, il peut faire ce qu'il veut. Mais de ce fait, il n'est pas dans une situation différente de celle des autres présidents de la Ve République, parce que c'est la logique même de ces institutions.
D'accord. Donc finalement, aujourd'hui, c'est ça Benjamin Lucas ? Aujourd'hui, vous pensez qu'Emmanuel Macron, en effet, finalement, ensuite pour la réforme des assurances chômage, apprentissage, formation professionnelle, ça va se dérouler de la même manière aussi ?
Moi, je suis un démocrate. Il y a eu des élections dans ce pays et il est normal qu'il y ait une majorité qui fasse ce pour quoi elle a été élue et une opposition qui la combatte. Je vais juste dire un petit mot, si vous permettez, parce que j'écoute assidûment Radio France, et donc ce matin, c'était France Inter, et j'ai entendu Dominique Méda, ce matin ou hier, je sais plus, mais Dominique Méda rappelait, parce qu'on parle beaucoup de la comparaison avec l'Allemagne, donc c'est toujours l'espèce de totem. Donc c'était ce matin. Et j'aime beaucoup Dominique Méda. En plus, je trouve ce qu'elle dit est très intéressant. On peut se mettre d'accord sur le fait qu'elle est sérieuse. Et elle nous donnait deux chiffres intéressants. C'est le nombre de travailleurs pauvres.
Mais oui.
En Allemagne, c'est 23%. En France, c'est 8%. Donc si notre modèle, aujourd'hui, quand on réforme le code du travail, c'est de faire plus de travailleurs pauvres, je ne sais pas si au final, c'est ça la modernité, si c'est ça le progrès.
Éric Scholl.
Le débat sur la précarité en Allemagne, j'ai l'impression que tous les trois mois, on nous ressort la précarité en Allemagne.
Parce qu'elle reste
dire, c'est un modèle qu'il faut rejeter. Très franchement, quand on regarde l'ensemble des fondamentaux en Allemagne, ils sont quand même pas si mauvais. Mais quand on parle aujourd'hui d'Emmanuel Macron et ce qu'il peut chercher à faire, on en parlera tout à l'heure sans doute de l'Europe. Mais cette réforme, elle compte aussi pour lui, pour asseoir, pour lui donner une légitimité s'il souhaite réformer l'Europe. On le sait bien parce qu'en fait, il est attendu à Bruxelles avec cette réforme, avec cette capacité à réformer le pays. On sait très bien que s'il n'arrive pas à mener à bien cette réforme, il aura énormément de mal à peser, notamment face à Angela Merkel, qui va quand même certainement accéder à un quatrième mandat dans quelques jours. Eh bien, s'il veut peser, il faudra qu'il puisse lui dire, moi j'ai réussi à réformer mon marché du travail en France, et maintenant, voilà ce que je souhaite faire en Europe, et on sait bien que là-dessus, il a énormément de projets, on aura peut-être l'occasion d'y revenir plus tard.
On va parler Antoine Bonneau.
Oui, enfin, malheureusement, ce calcul semble illusoire, c'est-à-dire le fait que Macron puisse vendre ce qu'il a à vendre sur le plan européen parce qu'il aura réformé le marché du travail, étant donné que ses partenaires, en particulier l'Allemagne, sont fondamentalement opposés à ce qu'il appelle l'Europe qui protège, notamment pour ce qui est des investissements étrangers en Europe. L'Allemagne n'en veut pas, et il y a d'autres sujets comme ça, même s'il réforme le code du travail, il ne pourra pas faire passer ça, ça n'a rien à voir.
Il y a beaucoup de sujets de tension, plus qu'on ne le pense, entre Angela Merkel et lui. Alors dans un instant, on va parler d'un autre homme, alors lui qui espère être président, mais des Républicains. C'est Laurent Wauquiez, hein, puisqu'il a annoncé sa candidature. On en parle dans un instant. L'info à 20h20, c'est Stéphane Milhomme.
Et MJ Del Guerab convoqué devant le bureau exécutif de La République En Marche. Le député des Français de l'étranger devra s'expliquer sur une violente altercation avant-hier avec un cadre du PS. Boris Faure est toujours hospitalisé. MJ Del Guerab a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour violence aggravée. À Nice, le procès de l'ex-porte-parole de l'association de victimes Promenade des Anges, une nouvelle fois reporté. Il comparaîtra finalement le 11 octobre en correctionnel. Vincent Delhomel aurait notamment détourné 7300 euros après une vente caritative en faveur des victimes du terrorisme. Il est actuellement hospitalisé. L'ONU appelle la Birmanie à la retenue ce soir contre sa minorité musulmane. Les combats entre les Rohingyas et l'armée ont déjà fait 400 morts et de nombreux déplacés. Des dizaines de milliers de personnes fuient actuellement vers le Bangladesh. Une lente décrue des eaux au Texas avec une accalmie des pluies. Mais après la tempête, les évacuations de populations se poursuivent. Tempête Harvey qui a fait au moins 38 morts. Les secouristes craignent de découvrir ces prochains jours de nouvelles victimes. En France, 2017 restera l'été le plus chaud depuis 1900 à égalité avec 2015. Météo France relève une température moyenne supérieure de 1,5 degré par rapport à la normale. Un déficit de pluie de l'ordre de 10%. Une quasi-absence de précipitations sur la Méditerranée et la Corse cet été avec en contrepartie une importante sécheresse des sols.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Soizic Kemener de Marianne, l'auteur Antoine Bueno, le président des jeunes socialistes Benjamin Lucas et Éric Scholl, directeur de Courrier International. Après François Mitterrand, Arnaud Montebourg, Laurent Wauquiez aime bien faire une petite ascension avec un pull sur les épaules pour montrer qu'il a de la cuisse. Ce sera dimanche pour ce dernier dans le Massif Central, le Mont-les-Ancres en Haute-Loire. Étrange habitude quand même de nos hommes politiques de grimper comme ça. Je suis pas sûr qu'au Népal, pour les campagnes électorales, des candidats disent aux journalistes « Allez, on se retrouve en haut de l'Everest ». Ça, je sais pas, faudra vérifier. Laurent Wauquiez est candidat et beaucoup lui prédisent une victoire le 17 décembre prochain, date du second tour de l'élection pour la présidence des Républicains. Face à lui, des candidats sans troupes. Wauquiez, détesté par les ténors, mais apprécié par la base. Et il a un programme clair, au moins là-dessus. On pourra pas le prendre en défaut, Laurent Wauquiez.
réaffirmer les valeurs de la droite. La droite doit être vraiment de droite. C'est des valeurs simples, le travail, la défense des classes moyennes, et puis les thématiques de sécurité et le refus du communautarisme et de l'intégrisme islamiste. Et donc ces valeurs-là, assez simples au fond, qui sont pas les valeurs d'une droite dure, qui sont juste les valeurs de la France. Moi, je préfère que les gens se disent, voilà, quand on écoute Laurent Wauquiez, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais au moins c'est clair.
Voilà, Laurent Wauquiez ce matin sur France 2, soyez caminaire. Ça veut dire quoi, en fait, de droite, vraiment de droite? Ça, c'est son slogan, il l'a dit à Château-Renard, il l'a redit ce matin.
Mais ça veut dire qu'il faut trouver un espace pour la droite, parce que quand vous regardez, par exemple, le Figaro, qui est le quotidien de référence de la droite, qui salue ce matin, justement, la réforme du Code du Travail en disant, voilà, c'est une réforme de droite libérale. Donc, il faut trouver de la place pour la droite, c'est très compliqué. Les constructifs, vous savez, ceux qui sont pro-gouvernement sont en train de partir. Donc, Laurent Wauquiez voit son créneau. Le problème, c'est que c'est un créneau très rétréci, coincé entre le Front National et puis donc tous ceux de droite qui finalement regardent vers Emmanuel Macron. Donc c'est un créneau très rétréci et d'ailleurs le suspense, il n'est pas de savoir si Laurent Wauquiez sera élu, parce qu'il sera vraisemblablement élu, sauf immense retournement de situation. On va être très très prudent à la fin de l'année. Mais la question est de savoir s'il va réussir à rassembler un petit peu, en sachant que ça se complique pour lui d'autant plus que c'est pas une personnalité et c'est un euphémisme particulièrement apprécié de ses amis politiques.
Alors, pas apprécié de ses amis, mais on voit une base quand même, Antoine Bonneau. On voit la base des Républicains qui apprécient des militants.
Laurent Wauquiez, je crois qu'on sera d'accord tous autour de cette table, il a oublié d'être stupide. Et il est bien évident que, compte tenu de la situation, il faut occuper cet espace-là de véritablement la droite. Je crois que cet espace, il existe. Hein. On connaît l'ouvrage de référence de René Raymond disant qu'il y a trois droites. Il y a l'orléaniste, la légitimiste, la bonapartiste. Eh ben, l'orléaniste, elle est au pouvoir. Il en reste deux autres, bonapartiste, légitimiste. Et on retrouve tout ça dans son discours. Donc cet espace-là, il me semble assez évident à occuper. La vraie question, c'est celle de savoir s'il va y avoir des passerelles, voire des ponts tendus avec le Front National. Et ça, c'est le point, à mon avis, le plus important, le plus problématique aussi pour la droite. Et de l'autre côté, savoir si une force centriste peut exister entre cette droite véritable qui se réaffirme et de l'autre côté, le macronisme.
Alors Benjamin Lucas, finalement, au PS, ça vous rassurerait presque de trouver quelqu'un qui n'est pas à la fois et de droite et de gauche. Finalement, là, qui se dit de droite, c'est clair. C'est, comme disait Emmanuel Macron, le monde ancien, on parle ça.
Non, alors moi, je crois en la nécessité du clivage entre la gauche et la droite, mais il faut qu'il soit dans un cadre de valeur. Laurent Wauquiez, ça fait des mois qu'on sait qu'il va être candidat à la présidence d'un parti. On pouvait penser à certaines déclarations que ce serait à la présidence du Front National. Il se trouve que là, il dit que c'est à la présidence des Républicains, mais c'est aussi ça qui est en train de se préparer dans le paysage politique. C'est qu'on n'a pas une droite, comme il dit, qui a les valeurs de la droite, qui ont pu être celles de Jacques Chirac, qui ont pu être celles développées aussi par une partie de la droite, même sous Nicolas Sarkozy, qui n'était pas en accord avec cette ligne-là. On a quand même avec Wauquiez, enfin, souvenez-vous sur le Burkini, souvenez-vous les polémiques de ces derniers mois, une droite qui est une droite très dure, qui est très proche idéologiquement du Front National, et ça c'est inquiétant pour notre démocratie. Moi je crois qu'on a besoin d'un clivage effectivement entre la gauche et la droite, mais dans le cadre de valeurs qui sont les valeurs républicaines, et être président des Républicains quand on est Laurent Wauquiez, c'est assez curieux.
Moi je trouve que c'est une très très bonne nouvelle quand on est hostile et opposé au Front National, parce que le fait qu'il y ait ce début de main tendue, à mon avis c'est le début de la fin du Front National, parce que ça peut aboutir à sa scission.
Enfin, de l'adversaire, on le tue, je crois qu'on le renforce.
Vas-y, Kémener.
Le début de main tendue, pour l'instant, il y a qui? Il y a Robert Ménard. Et il y a surtout une grande absente de la scène politique actuelle, c'est Marion Maréchal Le Pen. Parce que c'est elle qui, dans son testament politique, même si on voit très bien qu'elle envisage très vite de revenir, tend la main à Laurent Wauquiez. Donc, pour l'instant, Marine Le Pen n'a jamais tendu la main à Laurent Wauquiez. Pour l'instant, c'est encore elle qui est présidente du Front National, même si c'est très compliqué pour elle. Donc lui, il va jouer là-dessus d'ailleurs pendant la campagne. On voit bien, il dit ce matin dans son interview au Figaro, il dit non, jamais, jamais, jamais le Front National. Mais c'est vrai que quand on pose la question à Laurent Wauquiez de savoir ce qui le différencie du Front National, parce que la question lui a été posée à de multiples reprises, et sa réponse était toujours européenne. À partir du moment où la question de l'euro va être laissée de côté par le Front National, qu'est-ce qui reste?
Mais c'est un tenant du ministre, c'est quand même quelqu'un qui a toujours refusé de choisir entre un candidat de gauche et un candidat d'extrême droite, dans une élection. C'est pas neutre, ça, dans le débat politique républicain.
Éric Scholl, aujourd'hui, on voit les Républicains, alors déjà en plus qui se posent beaucoup de questions. En effet, il y a les constructifs d'un côté, certains qui veulent rester au sein des Républicains, par exemple comme Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, mais qui ne veulent pas aller se présenter face à Laurent Wauquiez, ça, c'est compliqué à comprendre.
Il y a un risque d'éclatement et ce nouveau virage à droite des Républicains est à la fois inquiétant et je pense que c'est une erreur politique. On peut comprendre tactiquement le choix, mais enfin ce choix il a déjà été fait en 2012, ça n'a pas marché avec Sarko et Buisson derrière.
Mais il y avait quand même Jean-Pierre Raffarin dans la campagne.
Ça n'a pas fonctionné. On veut encore le faire parce qu'à chaque fois, on se dit, mais non, il y a un électorat, etc. Mais regardez ce qui se passe en Allemagne. Est-ce que Angela Merkel, qui est à droite, elle a besoin d'aller toujours sur sa droite? Non, elle a fait un autre pari et elle va être réélue. Comme quoi, on n'est pas toujours obligé d'aller toujours plus à droite. Aujourd'hui, on nous disait il y a 2 ans que l'AFD allait monter. Aujourd'hui, l'AFD est à peu près limitée aux alentours de 10%. L'AFD, c'est ce parti anti-islam, anti-migrant, etc. Et on voit donc que ce n'est pas une nécessité pour la droite d'aller toujours plus à droite. Et je pense que là-dessus, c'est une erreur tactique forte des Républicains.
Allez, dans un instant, on va parler éducation, puisque c'est la rentrée. Hein. Lundi, on parlera également de l'Europe. Voilà la suite du programme des informés de France Info.
Tous les sports sont sur France Info. Jacques Vendroux.
Ce week-end, nous suivons les phases finales du championnat du monde de judo, mais aussi l'US Open de tennis. Et dimanche, 20h45, le match de l'équipe de France de football, France-Luxembourg. C'est en direct du Stadium de Toulouse.
Tous les sports en direct, tous les résultats, c'est sur France Info. Restez connectés à France Info.
Toute l'actualité, des alertes, des vidéos avec l'application mobile
France Info. France Info Météo, avec Pilote, stylo innovant et respectueux de l'environnement. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez tous les stylos Pilote sur pilotepen.fr.
Et à Météo France, on retrouve Sébastien Léas.
Demain, les averses vont se décaler vers l'est. Des orages pourront éclater dès la matinée, mais le risque orageux sera plus marqué l'après-midi entre l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Alsace et la Lorraine. Plus à l'ouest, la tendance sera à l'amélioration. En début de journée, des grisailles retarderont localement l'arrivée des éclaircies, des Ardennes au nord de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'en Bretagne. L'après-midi sera plus lumineux, en particulier de la Basse-Normandie aux pointes du Finistère et aux plaines du sud-ouest, alors qu'une petite averse pourra encore se produire du Limousin aux frontières belges. Autour de la Méditerranée, la journée sera ensoleillée, mais le vent va nettement se renforcer. De violentes rafales sont même attendues en Corse, ce vent pouvant transporter des averses localement orageuses sur la façade ouest de l'île. Déjà fraîche, les températures vont à nouveau perdre quelques degrés demain, variant de 8 à 19 degrés en début de journée et de 17 à 27 degrés l'après-midi.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'était Manuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Deux hommes en garde à vue dans l'enquête sur la disparition de la petite Maëlys en Isère. Tous les deux sont âgés de 34 ans. La fillette de 9 ans n'a pas été revue depuis la nuit de samedi à dimanche dernier, alors qu'elle participait à une fête de mariage. Une battue sera organisée demain par les habitants du secteur de sa disparition. Battue citoyenne, saluée par la gendarmerie. L'appel a en effet été relayé via le réseau Facebook. La commune de Danemarie en Alsace va pouvoir garder ses silhouettes. Le Conseil d'État a tranché. Il estime qu'il n'y a pas atteinte à la dignité humaine, comme l'affirmait au contraire le collectif féministe des effrontés. Ces 65 mannequins de contreplaqué montraient notamment des images de femmes en position lascive, enceinte ou légèrement vêtue. Elles avaient été installées en juin dernier pour célébrer l'année de la femme. Le retrait avait été ordonné par le tribunal administratif de Strasbourg au début du mois d'août. Décision annulée donc par le Conseil d'État, à la grande satisfaction du maire de Danemarie, Paul Mumbach.
Le goût et les couleurs, c'est à l'interprétation de chacun. Mais si on commence à dire, ben, j'aime pas moi la moutarde, je n'aime pas ce tableau, je n'aime pas cette peinture, bien, très bien, c'est la liberté. Alors conservons cette liberté et surtout, moi j'ai été choqué par un point, c'est-à-dire que cette association féministe au Conseil d'État demandait de détruire les silhouettes. Écoutez, franchement, parce que ça plaît pas, parce qu'on veut imposer ses positions, on veut détruire. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Ça aurait été un retour en arrière de dizaines d'années. Nous sommes dans un pays démocratique où la pratique de la liberté est une tradition.
Le père le maire de Danemarie en Alsace, Paul Mumbar, il compte organiser une fête dans sa commune pour célébrer sa victoire. L'étranger, après cette année de crise, la Grèce connaît enfin de meilleures nouvelles. Retour sur les marchés, réapparition de la croissance et nouvelle année record pour le tourisme là-bas. Mais en parallèle, les jeunes affrontent une précarisation de l'emploi grandissante. C'est une décision sans précédent. En Afrique, au Kenya, la Cour suprême invalide pour irrégularité la réélection à la présidentielle du 8 août du sortant Uhuru Kenyatta. Les juges ordonnent qu'un nouveau scrutin soit organisé dans les 2 mois qui viennent. Alain Delon, son ancien compagnon, mais aussi Johnny Hallyday, Carla Bruni ou Claudia Cardinal, de nombreuses célébrités ont rendu hommage aux côtés de près de 2000 anonymes à Mireille d'Arc aujourd'hui. Les obsèques de l'actrice ont été célébrées en l'église Saint-Sulpice à Paris. Et puis c'est à ce jour le plus grand réseau de transport public en libre accès de France. Le réseau de bus de l'agglomération de Niort est désormais, depuis aujourd'hui, totalement gratuit. Enfin, le Paris Saint-Germain, sous le coup d'une enquête de l'UEFA après le recrutement du Brésilien Neymar et du Français Mbappé pour plus de 350 millions d'euros. Il s'agit de vérifier si les règles du fair play financier ont été respectées. Les informés, la suite est fin.
20h-21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, lors d'Espacito, c'est l'info. Et ce soir, les informés reçoivent Sozy Kemener de Marianne, également le président des Jeunes Socialistes Benjamin Lucas, l'auteur Antoine Bueno et Eric Scholl, directeur de Courrier International. Lundi, c'est la rentrée des classes. Et oui, et aujourd'hui, c'était la pré-rentrée, celle des enseignants. Le jour préféré des profs, hein, puisqu'il n'y a pas encore d'élèves. Nouveau stylo, cahier écartable pour les uns, nouvelle réforme à appliquer pour les autres. Oui, en fonction de l'âge, hein, les fournitures sont moins amusantes. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a détricoté la fameuse réforme du collège de Najat Vallaud-Belkacem, remis les langues anciennes au goût du jour, divisé les classes par deux dans certains quartiers au réseau d'éducation prioritaire et de la musique. Hein, ça va y en avoir tout le temps à gogo. Un peu plus tard, ce sera au tour des universités, sujet à manier avec précaution, notamment à cause des admissions post-bac, les fameuses, vous savez, APB, pour être peut-être vous êtes concernés, hein, puisqu'ils sont 6000 encore aujourd'hui à ne pas avoir d'orientation universitaire cette année. Et dans son interview au Point, Emmanuel Macron explique vouloir en terminer avec le tirage au sort à l'entrée de l'université, sans prononcer le mot tabou de sélection. Mais il est temps de passer à autre chose, selon le ministre Jean-Michel Blanquer.
Le tirage au sort, c'est la négation de la République. C'est la négation même de principes qui sont dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Donc on veut changer ça, on veut une orientation beaucoup plus réussie. Mmh. Ça suppose évidemment des réformes de fond qui se feront sur plusieurs années, mais qui doivent avoir un effet déjà immédiat pour les élèves de terminale de cette année, c'est-à-dire meilleure information et aussi un mode d'affectation qui ne soit pas aussi aléatoire.
Jean-Michel Blanquer ce matin sur RTL. Alors juste avant de parler des universités, celui qui m'énerve, Jean-Michel Blanquer, est-ce qu'il a réussi, lui, sa rentrée ? Parce que cette réforme, elle s'est faite très rapidement, c'est-à-dire qu'il est nommé quand même fin juin, début juillet, et ça y est, il y a déjà une nouvelle réforme du collège. Alors, et pas que du collège d'ailleurs, aussi.
C'est quelqu'un qui est dans le circuit, depuis des années et des années. Hein. Il a travaillé de longue date au ministère de l'Éducation nationale. C'est quelqu'un qui est reconnu, qui est connu des syndicats, etc. Et qui est aussi très, très, très proche de la droite, ce qui évite justement les critiques sur son action, puisqu'il est très proche de François Baroin. Donc, une fois qu'on a posé ça, on sait que pour lui, c'est peut-être plus facile que pour certains autres, parce qu'il sait naviguer dans ces milieux-là. Après, la réforme, moi, je trouve tout à fait intéressante, hein, celle du dédoublement, là, on parle du primaire, mais du dédoublement des classes. Alors, pour l'instant, c'est dans certaines classes réseau d'éducation prioritaire, pas toutes. Alors, en même temps, si on revient au début de cette réforme, hein, c'était une réforme qui était portée notamment par l'Institut Montaigne, le think tank l'Institut Montaigne. Et quand on lit justement ce que disait Laurent Bigorne, donc le patron de l'Institut Montaigne, il disait, c'est très bien, mais il faut quand même la formation des profs, et puis il faut pas mettre non plus, des instituteurs, pardon, et il faut pas que ce soit des instituteurs très jeunes qui soient dans ces classes-là. Donc il va falloir regarder comment ça se passe dans ces classes, mais en revanche, toutes les études montrent que c'est très très intéressant de permettre aux élèves d'être moins nombreux en classe pour cette classe charnière qui est le CP. Donc ça, je pense que c'est bien, il faut le dire.
Antoine Bueno.
On dit souvent que l'éducation c'est irréformable, c'est pas tout à fait vrai. Il y a au contraire souvent des réformes qui sont prises, et ça devient compliqué quand c'est des réformes législatives. Donc tout ce qui a été fait là, il faut bien le souligner, c'est pas législatif, et c'est peut-être pour ça que ça a été aussi
aussi rapide. Alors aussi, il y a quand même, on a vu des témoignages aujourd'hui de profs, Eric Scholl, des professeurs qui disaient, bon bah voilà, une réforme, pourquoi pas, mais on parlait de réformite aiguë, ça veut dire, est-ce qu'il faut qu'à chaque fois qu'il y a un ministre de l'éducation qui l'imprime sa marque, on a l'impression que c'est le cas, à chaque nouveau ministre de l'éducation, il y a une réforme.
Mais là, je ne crois pas justement qu'on soit sur cette réforme, sur ce type de réforme législative. Il y a la prise de conscience qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, que ça soit d'ailleurs en primaire ou que ça soit évidemment, on le voit bien, à l'université. Et l'idée, et moi, ce que j'entends, c'est des choses hyper pragmatiques. C'est de dire, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut essayer de trouver comme solution? D'où cette idée d'ailleurs de ne pas reprononcer le mot de sélection, même si on a tout ça en tête.
On va parler de ça, mais c'est vrai que la réforme du collège de Najat Vallaud-Belkacem devait s'appliquer. Alors, je vous vois faire une drôle de tête. Mais en même temps, est-ce que la détricoter aussi, c'était une manière de rompre aussi avec le quinquennat précédent?
C'est comme les rythmes scolaires. Antoine, c'est pareil, les rythmes scolaires, on pouvait pas savoir si ça marchait ou si ça marchait pas. Ça a été compliqué à mettre en œuvre pour les collectivités locales. Et là, on réforme pour quelque chose qui sera mi-figue, mi-raisin. Donc, effectivement, on imprime sa marque.
Benjamin Lucas.
Moi, je crois que ce ministre de l'Éducation nationale est très dangereux. Et moi, je vais vous dire une chose, je ne crois pas qu'on soit dans quelque chose de pragmatique. Parce que j'ai lu ce qu'a écrit le ministre pendant les vacances, parce qu'on essaye quand même de s'informer aussi pendant les vacances. D'abord, oui, en écoutant les informés, mais aussi
en lisant
la presse. Il a dit, l'adversaire, j'ai plus la formule exacte, mais l'adversaire principal du système éducatif, c'est l'égalitarisme. En niant quand même ce qu'est la réalité de notre école. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE, ce sont des études internationales. C'est-à-dire, c'est pas le Parti Socialiste ou le SNES qui disent que le principal problème, c'est la reproduction des inégalités. Ce sont les déterminismes sociaux. C'est ça. Et c'est pour cela qu'avec Najat Vallaud-Belkacem, qu'avec Vincent Peillon, qu'avec Benoît Hamon, notamment pendant 5 ans, et moi, il y a beaucoup de choses que j'ai combattues dans ce quinquennat, mais il y en a aussi beaucoup que j'ai soutenues, nous avons mis en place des réformes qui visaient à faire de l'école un lieu qui permet l'égalité, qui permet aux enfants de s'émanciper, qui permet de s'échapper de son milieu social pour avoir une réussite éducative pour toutes et pour tous. Et là, on est en train de remettre en cause cela. Alors, on le remet en cause dans l'école. On parlait des emplois aidés, ça a un impact évidemment là-dessus. On le remet en cause aussi à l'université, parce que quand on va remettre la sélection à l'université, c'est quoi? On nous parle de modernité, mais c'est le retour au 19e siècle. Ça va être l'enseignement supérieur réservé à quelques-uns, à une élite, évidemment à ceux qui viennent des milieux sociaux les plus aisés. Donc on est dans un véritable retour en arrière éducatif qui est très dangereux.
On regarde les chiffres aujourd'hui, on connaît toutes les tares de l'enseignement du système éducatif français. C'est réussite aussi, mais on connaît, vous parliez à l'instant des résultats sur le plan international, on regarde PISA, on regarde tous ces... On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un problème d'inégalité. On voit que ça ne fonctionne pas, d'où l'idée quand même de changer les choses.
Quand on pense qu'il y a un problème d'inégalité, on ne dit pas que le principal problème, c'est l'égalité, justement. On part du principe que le problème, ce sont les inégalités, et on essaye de les combattre. C'est ce que nous avons fait avec la réforme des rythmes scolaires, c'est ce que nous avons fait avec la réforme du collège menée très courageusement par Najat Vallaud-Belkacem. Et c'est là-dessus qu'il faudra approfondir, au lieu d'avoir des réformes qui sont... Enfin, c'est le grand tournant réactionnaire à l'école.
Et pourtant, ce mot de sélection, pour reprendre votre terme, avait été prononcé, je me souviens, j'en avais fait une émission dessus, par Najat Vallaud-Belkacem à un moment. Et ça avait fait un grand scandale. Ça veut dire qu'il y a un moment, quand même, ce mot est dans l'air depuis très longtemps.
Elle l'a jamais mis en
place, qu'elle emploie un mot. Bien sûr que si. Alors si, ça, il faut rappeler que la sélection, c'est dans les tuyaux depuis le dernier quinquennat, puisqu'il y a une loi qui est passée.
C'est pour ça que j'ai combattu beaucoup de choses aussi.
À la fin de l'année dernière, c'était en novembre 2016, qui était une loi mixte, puisque d'un côté, on affirmait le droit à la poursuite d'études, et d'un autre côté, on prononçait la sélection en déplaçant le curseur de la sélection à l'entrée du master. Là, tout le débat, c'est d'aller encore plus loin en créant une sélection à l'entrée de la licence, c'est-à-dire à l'entrée de l'université. Mais on a déjà imprimé le mouvement.
Vous vous rendez compte? Alors, on est une génération qui est celle qui a le plus accès à la technologie, qui est l'une de celles qui a les plus grandes opportunités. Emmanuel Macron aime bien parler de libérer les énergies. Et on va expliquer aujourd'hui à cette génération qu'il y aura une partie d'entre elles qui n'aura pas le droit.
Non, c'est pas le cas. Regardez les bacs professionnels,
regardez les bacs professionnels, le taux de réussite aujourd'hui à l'université en filière générale, entre 1 et 5%. Il y a un moment, on se dit, il faut faire quelque chose. Sinon, on reste là, dans l'immobilisme.
Aidons à réussir. Arrêtons avec le tout magistral. Faisons des choses qui aident à réussir plutôt que de dire, quand le chien est malade, abattons-le.
Alors, on va continuer à en parler, promis, de ce terme sélection, décidément très explosif. L'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
Raqqa, c'est la capitale autoproclamée de Daesh et la vieille ville est en train d'échapper aux djihadistes. Une alliance arabo-kurde soutenue par les États-Unis a chassé aujourd'hui les combattants de l'organisation État islamique de cette ville de Syrie qu'ils occupent depuis 2014. 400 personnes dans les rues de Béthune aujourd'hui contre la baisse des emplois aidés, une mobilisation d'élus locaux, d'habitants dans cette commune du Pas-de-Calais. Le syndicat intercommunal du secteur devrait perdre dès ce mois de septembre 65 de ses 90 emplois aidés. privés et financés par l'État. C'était aujourd'hui la rentrée des profs, c'est lundi la rentrée des élèves. À Forbach en Moselle, les enfants de l'école Louis Houpert auront la visite lundi d'Emmanuel Macron et de ministres. C'est un établissement en zone éducation prioritaire. Le gouvernement entend faire des efforts dans ce type de secteur, notamment en CP. L'US Open de tennis, c'est pas de chance pour Nicolas Mahut, battu en 3-7 par l'Espagnol Carreño Busta, 6-3, 6-4, 6-3. Lucas Pouille opposé actuellement au Kazakh Kukushkin. Caroline Garcia éliminée par la Tchèque Petra Dvitvota en 2-7, 6-0, 6-4. Le réseau de bus de Niort est depuis ce matin totalement gratuit. Selon les élus, c'est le plus grand réseau de transport public en libre accès pour une agglomération de 120 000 habitants. L'objectif est d'augmenter de 30% la fréquentation du réseau dans les 45 communes de ce secteur des Deux-Sèvres.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, ça y est, lundi, c'est les vacances pour les parents, hein, puisque tout le monde retourne à l'école. Et il y aura également les rentrées, la rentrée universitaire, hein, voilà, ça sera à partir du 11 septembre notamment. Sozy Kemener, dans son interview du Point hier, Emmanuel Macron, justement, on parlait de sélection, qui est un terme qui tend beaucoup de gens, mais lui, il ne le prononce pas. Et on sent qu'il veut aller vers là, mais il n'ose pas le dire, en fait.
Oui, et d'ailleurs, il y a eu une forme de rétropédalage ensuite, puisque la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, voilà, a reçu les syndicats, enfin les principaux acteurs de l'enseignement, et ils sont sortis de là en disant non, il n'est pas question d'empêcher les bacheliers d'entrer à l'université, c'est ce qu'elle nous a dit, donc c'est une affaire quand même à suivre, en sachant que dans les pistes de réforme, il pourrait y avoir notamment le fait de créer de nouvelles filières vers lesquelles diriger les bacs pro. Donc ça, c'est ce qui... Voilà où on en est pour l'instant, mais c'est vrai que c'est explosif. Si vous ajoutez à ça la baisse des APL, d'autant que dans cette même interview du Point, Emmanuel Macron laisse entendre que ce n'est que le début. Donc, là, il y a un cocktail qui est toujours dangereux. Hein. Quand on commence à regarder de près ce qui peut se passer à la rentrée universitaire, ce sera à la fin du mois de septembre. Qu'est-ce qu'il y a à la fin du mois de septembre? Eh bien, il y a la manifestation de la France insoumise. Qui a voté en majorité? Qui est le candidat pour lequel les jeunes ont voté en majorité? Eh bien, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc là, il y a un cocktail un peu dangereux. Donc je pense qu'ils vont s'appliquer à diminuer ça assez vite, parce que le contenu de nos échanges a montré assez vite ce que ça pouvait donner dans le champ public.
Antoine Bonneau. Ce mot justement, alors sélection aujourd'hui.
Sélection, en fait, il y a une logique globale qui se détache dans l'action de ce gouvernement en matière d'éducation, qui n'est pas aussi caricaturale que ce qu'on a bien voulu dire, c'est d'avoir plus d'équité au début du parcours scolaire, c'est-à-dire avec les petites classes, pour que, si ça fonctionne, on aille vers plus de libéralisme à la fin du parcours, c'est-à-dire au moment de l'université. C'est la raison pour laquelle la sélection au moment de l'université va, à mon avis, dans l'esprit des concepteurs de toutes ces réformes actuelles du gouvernement, avec le renforcement des petites classes, des CP, moins d'élèves, etc. C'est logique.
Alors Benjamin Lucas, il y a quand même, c'est vrai aujourd'hui, s'attaquer à cette histoire d'APB, on l'a vu cet été, c'est scandaleux. Enfin, il y a aujourd'hui 6000 personnes qui ne savent pas encore où ils vont aller, ils ont leur bac. Certains avec des mentions très bien, ils n'ont pas d'affectation, il y a quelque chose, il faut faire quelque chose.
Ah, bien sûr, donc, et c'est scandaleux, et c'est pour ça, c'est scandaleux d'ailleurs que le bac aujourd'hui ne soit plus systématiquement, on l'a vu là, automatiquement permettre d'aller à l'université, c'est-à-dire qu'on a des jeunes qu'on a laissés dans une angoisse et dans une incertitude pendant tout l'été, enfin c'est terrible, on en connaît toutes et tous, mais ça veut dire que oui, il faut mettre des moyens, on ne peut pas faire ça avec une politique d'austérité et de rigueur budgétaire, il faut mettre des moyens dans l'enseignement supérieur et la recherche, il faut mettre des moyens dans nos universités, enfin, on est un pays riche, un pays qui se valorise d'avoir des entrepreneurs, c'est des concepteurs, des intelligences, mais il faut mettre les moyens à l'école et pas faire une rentrée où c'est en marche sur les jeunes, réforme du code du travail, réforme des APL qu'on va raboter.
Vous dites davantage de places en fac, c'est ça, Benjamin Lucas, ça serait
davantage de places en fac. Permettre à tous les jeunes de choisir leur orientation et de mener à bien leur projet d'émancipation et de conquérir leur autonomie aussi, par exemple, eh bien, en arrêtant de cumuler des petits boulots qui souvent, c'est ça, parce que vous parliez de la cause d'échec à l'université, mais l'une des principales causes d'échec dans l'enseignement supérieur, c'est que beaucoup de jeunes sont obligés de se salarier pour réussir. Bah peut-être que si on mettait en place,
il y a aussi un problème d'information. Il y a un problème d'information entre le système scolaire et le système universitaire.
La question de ce qui fait que des jeunes renoncent à se loger, c'est pas ça qui fait que des jeunes ne peuvent pas étudier parce qu'on n'en a pas les moyens.
L'idée de leur dire que voilà, tout est ouvert, etc. Sans doute, mais à un moment, il faut aussi leur dire la réalité des choses, leur dire qu'il y a une surpopulation aujourd'hui dans certaines filières, la filière en psycho, en STAP, on sait très bien que c'est, et donc leur dire très en avant, leur dire dès le lycée, les informer sur les carrières possibles. leur parler de carrière. C'est aussi possible dès le lycée. Leur dire, voilà quelles orientations on peut prendre. Voilà, leur donner ces conseils. C'est quand il y a ces mots de transparence et d'information, ça peut compter. C'est, bien sûr, on n'est pas uniquement sur les aspects budgétaires, mais je pense que ce sont des aspects qui sont très importants.
Antoine Bonneau,
il y a plein d'étudiants qui perdent leur temps. Je sais qu'il ne faut pas dire ça, mais c'est la vérité. On le sait très bien. Il y a des gens qui font 3 ans dans des cursus qui ne leur rapportent rien, même pas un diplôme, et ils ressortent de là complètement désemparés, désœuvrés.
Moi, j'ai jamais cru qu'un savoir, c'était perdre son temps. On peut nommer le cas.
Je comprends ce que vous voulez dire. Mais moi, je comprends
acquérir des savoirs, ça peut aussi être valorisant.
Je suis aussi d'accord avec vous. Toute la question centrale qu'on n'arrivera pas à trancher, c'est à quoi sert l'université ? Est-ce que c'est faire un bel esprit ? Et ça aussi, pourquoi pas ? Ou est-ce que c'est quelque chose de très pragmatique ? C'est l'insertion dans la vie professionnelle.
C'est les deux.
Et c'est ça qui est très difficile à concilier.
Sozy Kemener, on comprend ce que vous disiez tout à l'heure, à quel point ça peut être politique. Voilà, ces histoires. On se souvient au moment de la loi El Khomri. Finalement, les premiers qui avaient été reçus, c'était l'UNEFID. Tout de suite, et ensuite, après, se sont retirés. Voilà, donc c'est vraiment à manier avec précaution.
Ah, mais ça, oui, bien sûr. Mais c'est. D'ailleurs, on voit. Après l'interview d'Emmanuel Macron, le fait que Frédéric Vidal fasse passer ce message, c'est pas du tout anodin. Donc effectivement, il faut regarder comment les choses prennent, comment les choses fonctionnent. Et c'est vrai que cette histoire de sélection à l'université, on sait bien que c'est un chiffon rouge. Alors après, on peut discuter calmement, posément de ce genre de choses, mais discuter de ça à la rentrée, c'est toujours très compliqué.
Il faut savoir de quoi on parle. La sélection, à mon avis, elle est inévitable. Et ils le feront, peut-être en n'employant pas le mot. Ça veut dire mettre des prérequis. Ça veut dire quoi? Des prérequis. Ça veut dire que, par exemple, je peux m'inscrire en fac de mathématiques si j'ai fait un bac scientifique ou si j'ai eu une option maths. C'est ça, les prérequis. Il faut bien être clair sur par quoi ça va commencer, cette sélection. Je ne dis pas que ça va s'arrêter là.
Ça a déjà été mis en place, les prérequis. Ça a été enlevé ensuite sous Jacques Chirac.
Oui, tout à fait. Voilà. La question des prérequis est très glissante parce que soit vous avez des prérequis nationaux, soit vous avez des prérequis qui sont faits par les universités elles-mêmes. Et ça, c'est très libéral.
Benjamin.
Moi, je crois qu'on a déjà beaucoup trop de processus de sélection. Sélection sociale, une sélection géographique, une sélection psychologique aussi. Il y a des enfants, à des jeunes, et qui on explique que jamais ils ne pourront faire tel cursus pendant longtemps, et que donc le rôle aujourd'hui de notre société, c'est peut-être de lever toutes ces sélections-là avant d'envisager d'en mettre des nouvelles. Et je crois que c'est peut-être aussi à ça que ça sert un pays qui se prétend un pays d'éducation, un pays de culture, un pays de savoir, et qui a cette spécificité-là aussi de valoriser ce qu'est l'apprentissage des savoirs.
Ce qui est assez étonnant, Rick Scholl, c'est qu'on voit quand même une différence entre les présidents d'université et les syndicats, justement. Les présidents d'université seraient plutôt pour finalement peut-être une méthode de sélection. Les syndicats disent non.
Ils ont pas ces moyens.
Voilà, en effet. Alors comme
donnant leurs moyens d'accueillir tout le monde.
Eux, ils disent non. Il faut réfléchir à d'autres pistes. Ce mot sélection, en effet, semble totalement tabou.
Non, ce qui est vrai, effectivement, il y a quand même cette question de moyens. Quand on voit que le budget des universités va en se réduisant, je pense que la question budgétaire est loin d'être l'unique question, mais enfin, elle existe quand même. D'ailleurs, il suffit de faire des comparaisons. Aujourd'hui, on est plutôt en train de baisser le budget de recherche et du supérieur. Il y a un effort à faire là-dessus. Alors, bien sûr qu'on peut pas faire des efforts partout. Tout à l'heure, vous disiez, il faut faire des investissements, etc. Je rappelle qu'on a quand même aujourd'hui des taux de dépenses publiques qui est à 56% de notre PIB. Et donc, non, il y a des contraintes et il y a des choix. Mais dans les choix à faire, dans les priorités à faire, très clairement, l'enseignement supérieur et la recherche fait partie de ses priorités.
Allez, dans un instant, on va parler un petit bout d'Europe. On y reviendra grandement la semaine prochaine. Merci Antoine Bonneau. Je sais que vous devez partir. Merci.
Bonsoir,
d'être venu.
Merci à vous.
Exactement. Merci. Voilà. Attention au mot sélection, hein, surtout. Voilà. Ne le prononcez pas ce week-end. L'info à 20h50. Stéphane Milhomme.
Le PSG a-t-il respecté son fair play financier cet été? L'UEFA veut le savoir et ouvre une enquête après les transferts de Neymar et Mbappé. 222 millions pour l'un, 180 millions d'euros pour l'autre. Le club de foot parisien se dit surpris par cette enquête, mais très confiant. Mjid El Gherab, toujours en garde à vue, le député des Français de l'étranger, est interrogé dans le cadre d'une enquête pour violence aggravée après l'agression d'un cadre du PS, Boris Faure. Mjid El Gherab est convoqué aussi devant le bureau exécutif de La République En Marche pour s'expliquer sur cette violente altercation. En attendant, l'élu se met en retrait du parti macroniste. Le bilan reste provisoire au Texas, au moins 38 morts après le passage de la tempête Harvey. Les dégâts s'élèvent à des dizaines de milliards de dollars. Et la famille Dell, une fortune du Texas dans l'informatique, s'engage à donner 18 millions d'euros de dollars pour pouvoir lancer un fonds de reconstruction. 2000 personnes, des anonymes présents aux côtés des vedettes, aujourd'hui à Paris pour un ultime hommage à Mireille d'Arc. L'actrice est morte en début de semaine et c'est Alain Delon qui a partagé une partie de sa vie et sa carrière au cinéma qui souhaitait la présence l'espérance de son public. Et puis en Normandie, le jury est présidé à partir d'aujourd'hui par Michel Hazanavicius, le réalisateur de The Artist, 5 Oscars aux États-Unis. Le début aujourd'hui du 43e festival du cinéma américain de Deauville, 60 films dont une quinzaine en compétition.
France Info. 20h-21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons alors d'un sujet qui n'a pas trop été évoqué, puisqu'il y a eu beaucoup de choses cette semaine à parler, notamment sur la loi travail et aussi exactement aussi sur, vous savez, tous ces politiques qui vont aujourd'hui dans les médias. Mais vous savez, cette semaine, devant les ambassadeurs, Emmanuel Macron a dit vouloir une Europe refondée et à plusieurs formats, hein, tirés par une avant-garde, je cite toujours, de pays qui voudront aller plus loin dans la convergence de leur économie et politique. C'est vrai que c'est pas toujours simple d'être président. En gros, c'est créer un petit club, voilà, on va synthétiser, de ceux qui veulent faire quelque chose. On verra bien pour la suite. Alors, Éric Scholl, vous vous dirigez Courrier International et finalement pour cette dernière discussion rapide, c'est un peu la une, votre une cette semaine sur Emmanuel Macron qui est caricaturé, bienvenue en Europe, et vous titrez « Déjà affaibli en France, Emmanuel Macron agace à l'étranger par son intransigeance ». Il agace vraiment Emmanuel Macron alors, en Europe en
ce moment ? Si vous voulez, quand il est arrivé au mois de mai, il a été acclamé à Bruxelles, on a dit « voilà, il va réformer l'Europe ». Et cette idée de refonder l'Europe, il l'a depuis un longtemps. En 2015, il défendait déjà cette idée d'avant-garde. Le Brexit lui permet aussi de se dire « bah voilà, on va être 27, il y a une façon de reconstruire l'Europe avec les gens qui ont envie d'y aller ». Très bien. Mais il y avait beaucoup d'attentes, des attentes notamment de la part des Italiens. Mais aujourd'hui, quand on voit les Italiens sont très énervés par le comportement du gouvernement français vis-à-vis notamment de l'Italie sur beaucoup de sujets, sur les migrants, sur les affaires industrielles, sur la Libye. Bon, et ce qui s'est passé la semaine dernière, lorsqu'il s'est rendu dans les pays de l'Est, il est allé en Autriche et puis ensuite il s'est rendu en Roumanie, en Bulgarie. Il n'est pas allé en Pologne. Mais il a eu des propos très durs sur le gouvernement polonais. Et on peut comprendre, parce que le gouvernement polonais est un gouvernement nationaliste, quasiment fascisant, qui est extrêmement dur et qui est rétrograde, etc. Mais enfin, la Pologne fait partie de l'Union européenne, oui. Et grosso modo, il a dit la Pologne n'a rien à voir avec l'Europe, on ne partage pas les mêmes valeurs, etc. Au moment où lui veut revoir, vous savez, ce texte, cette directive sur les travailleurs détachés, c'est le moment où on a un besoin de faire de la pédagogie, de la compréhension. Il a besoin d'ailleurs il faudra qu'il ait deux tiers des voix de l'Union européenne au sein de l'Union européenne. C'est pas la meilleure façon que d'aller provoquer comme il l'a fait. Je suis pas sûr que dans la méthode, autant sur le fond, bon, il y a des choses qu'on peut partager. Sur la méthode, c'est pas nécessairement cette arrogance hein, qu'on retrouve un peu de temps en temps chez lui, qu'on a vu cet été en France, on la retrouve aussi à l'étranger. Alors, et ça énerve à l'étranger.
Soisy Kemener, l'Europe, on le sait, Emmanuel Macron se dit européen convaincu. Là, il veut faire une Europe à la carte avec ceux qui avancent et ceux qui voudraient stagner finalement. Est-ce que on sait pas si c'est encore une union d'ailleurs finalement ce qu'il propose. Mais est-ce que finalement aujourd'hui l'Europe c'est son moteur, Emmanuel Macron? C'est vraiment aujourd'hui ça? On l'a vu tout à l'heure par rapport au code du travail, etc. Il pense à ça.
C'est aussi sa carte d'identité politique, c'est-à-dire que on voit bien il y a une volonté de la part d'Emmanuel Macron de rompre sur tous les plans avec ses prédécesseurs et donc de dire ce que je dis en 2015, ce que je dis aujourd'hui, je l'ai dit, Éric Scholl le disait tout à l'heure, j'ai dit en 2015, j'ai dit en 2016, j'ai dit en 2017. Donc c'est pas un hasard d'ailleurs s'il jalonne sa route de textes comme l'interview Fleuve au Point qu'on a pu lire hier matin. Donc il y a une volonté de dire c'est sa carte d'identité, les Français ont entendu ça pendant la campagne. Alors après on peut revenir sur les conditions de la campagne, mais il y a une volonté de sa part à continuer dans de toute façon à creuser ce sillon-là, parce qu'il sait qu'il a assez peu de cartes d'identité politique. Finalement, Emmanuel Macron, il est un peu arrivé comme un ovni dans notre paysage politique. Donc ça, c'est un repère pour les Français. Donc c'est l'Europe, non pas en sautant comme un cabri sur sa chaise, mais en même temps en montrant une direction. Là, ce que j'ai trouvé intéressant, je suis allée écouter son discours aux ambassadeurs mardi matin. Ce que je trouvais intéressant aussi, c'est ce qu'il disait sur le Brexit. C'est-à-dire, le Brexit, on les laisse, hein, on met ça de côté et on passe à autre chose. Donc une volonté un peu de faire tabula rasa, de laisser un peu cet héritage-là de côté d'une ancienne Europe qui se disloque et de lancer une nouvelle refondation. On voit que le sentiment européen a augmenté en France depuis qu'il a été élu, mais je ne dis pas pour autant que ce sera une partie facile.
Benjamin Lucas, vous, sur le côté à la carte, justement, comme le propose Emmanuel Macron. C'est-à-dire, d'abord, vous voulez avancer, vous allez.
D'abord, grosse coupe de fin d'émission, je vais lui faire un compliment, Emmanuel Macron.
Mais oui, mais attendez, je note.
Moi, je me réjouis d'abord qu'il repolitise le débat européen, parce que je pense que l'Europe, elle souffre du fait qu'on n'ait plus de débats. Voilà, et qu'à un moment, c'est peut-être perçu comme de l'arrogance, mais il faut qu'on ait des débats, qui sont des débats politiques. Après, sur les travailleurs détachés, c'est drôle, parce qu'il était quand même ministre quand la directive était là. Et donc, il y a quand même un souci de cohérence. Mais globalement, où sont les résultats? C'est-à-dire qu'il est revenu, il a fait un bide au Conseil européen, Emmanuel Macron. Il n'a réussi à imposer aucun des thèmes qui étaient ceux de sa campagne électorale. Parce que, effectivement, c'est plus dur au Conseil européen qu'avec une Assemblée nationale aux ordres ou qu'en gouvernant par ordonnance. Mmh. Et moi, je crois là aussi que le vrai désaccord qu'on va avoir, que j'aurai moi avec Emmanuel Macron, c'est que on ne réoriente pas l'Europe en mettant en œuvre, on parlait de la réforme du Code du travail tout à l'heure, des politiques libérales. On réoriente l'Europe en lui donnant un contenu social et aujourd'hui en lui redonnant aussi un contenu démocratique pour recréer une adhésion. Sinon, nous allons subir ce qu'a subi le Royaume-Uni avec le Brexit, ce que nous subissons avec la montée des nationalismes dans beaucoup de pays européens, dont dans le nôtre.
Allez, les informés de France Info, ça doit se terminer. Promis, on reviendra sur ce débat européen. C'est vrai qu'on parle jamais assez d'Europe. Les informés de France Info, ça doit se terminer. Mais d'abord, un petit coup d'œil à nos partenaires. Sois-y, Kémener. La une de Marianne, il y a beaucoup de choses sur cette
voilà,
une.
Voilà, beaucoup de sujets à la une. Alors, je vais vous en citer deux.
Allez-y.
Alors, un, de Martinez à Mélenchon, la résistance s'organise, le front anti-Macron. Et ensuite, un sujet qui, je suis sûre, va vous intéresser, politique et journaliste. Par ici, la bonne soupe, on parle évidemment des croisements qui se sont opérés cette semaine.
Ah, d'accord.
N'oubliez pas les jeunes socialistes dans l'opposition à Macron.
D'accord, voilà. Alors voilà, redire en tout cas, vous ferez un débat dans une conférence de rédaction juste après. Et Éric Scholl, donc vous, la une de Cour internationale.
Bah, bienvenue en Europe. Voilà. Avec Emmanuel Macron. Et c'est pas en Europe, c'est pas un peu difficile.